cours de chimie proposé par physiagrec.fr. Chapitre 3, suivi temporel d'une transformation chimique. On va raisonner à partir d'un exemple de transformation. Alors tout d'abord les différentes méthodes de suivi. On peut mesurer à différents instants successifs la concentration d'un réactif ou d'un produit dans le milieu réactionnel. Pour ça, on utilise plusieurs méthodes, donc une méthode chimique comme le titrage, ou alors des méthodes physiques comme la pH-métrie, la conductimétrie ou bien la spectrophotométrie. Nous cherchons donc à obtenir, par exemple, la concentration du réactif ou d'un réactif en fonction du temps, ou bien la concentration d'un produit en fonction du temps, ou enfin l'avancement de la réaction en fonction du temps. Comme exemple de transformation, nous allons prendre la réaction entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate. Et on va suivre cette transformation par titrage. Alors, voyons les deux couples qui vont intervenir, le couple I2-I- que l'on a déjà vu, et le couple S2O8-, SO4-, qui est donc le second couple dans cette transformation. La réaction qui se produit est donc 2I- plus S2O8-, qui donne I2 plus 2SO4-. On va titrer en fait le diode qui s'est formé lors de cette réaction. Donc on va le titrer à différents instants pour pouvoir faire le suivi de cette transformation. Un petit rappel au niveau des titrages. À l'équivalence du titrage, le réactif titré et le réactif titrant sont entièrement consommés. Ainsi, l'avancement de la réaction atteint son maximum à chaque instant, et surtout à l'instant de l'équivalence. On peut repérer cette équivalence par plusieurs méthodes, notamment un changement de couleur, du milieu réactionnel ou alors d'un indicateur coloré. Ici, on va étudier la transformation qui fait apparaître du diode. Et on va doser ce diode, donc le diode étant de couleur brune, il va disparaître, et donc la solution au final sera incolore. On va réaliser le titrage du diode par une solution de thiosulfate. Pour doser donc le diode qui est issu de la transformation entre les ions iodure et les ions peroxodisulfate, il faut stopper la réaction. Alors pour cela, on utilise ce qu'on appelle une trempe, c'est-à-dire qu'on va mettre en contact le prélèvement avec un volume d'eau distillée glacée, ce qui va bloquer la réaction. Et donc nos échantillons vont être obtenus ainsi, et vont être dosés avec le thiosulfate. Grâce au titrage, nous allons pouvoir donc remonter à la concentration de diode dans l'échantillon, puis donc par un tableau d'avancement, on va obtenir l'avancement de la réaction en fonction du temps, avec les différentes mesures de concentration des échantillons. Alors que donne le tracé de X en fonction du temps? Eh bien on obtient une courbe qu'on va rencontrer souvent pendant l'année terminale. Pour la décrire oralement, on peut parler de la pente de la tangente à la courbe. Donc cette pente, au tout début, elle est très forte, ce qui veut dire que l'avancement augmente très rapidement. Et au fur et à mesure que la réaction se fait, la pente devient de plus en plus petite. Donc la courbe s'aplatit pour atteindre une asymptote quand elle tend vers l'infini. Parlons à présent de la vitesse volumique de réaction. Définissons cette vitesse, elle est notée V. Et elle est définie par V égale 1 sur grand V fois dx sur dt. Alors V c'est la vitesse, donc petit v, elle va s'exprimer en mol par litre par seconde. Grand V qui est donc au dénominateur, c'est le volume qui s'exprime en litres. Et x sera l'avancement, donc dérivé par rapport au temps en secondes. Donc je répète la formule, V égale 1 sur grand V fois dx sur dt. Comment déterminer cette vitesse de réaction? Eh bien, généralement, dans les problèmes, on nous demande de tracer la courbe x égale f de t. Donc, on va pouvoir travailler à partir de cette courbe. Et donc, la valeur de dx sur dt, qui intervient dans la définition de la vitesse volumique, est obtenue en évaluant le coefficient directeur de la tangente à la courbe x égale f de t à la date considérée. Une fois qu'on a le coefficient directeur de la tangente à la date considérée, il nous suffit de diviser par le volume grand V de la solution pour obtenir la vitesse volumique. Maintenant parlons de l'évolution de la vitesse au cours du temps. Eh bien on a déjà parlé donc de la courbe x égale f de t et on l'a décrit par rapport à son coefficient directeur. Comme la vitesse volumique est proportionnelle au coefficient directeur de la courbe x égale f de t, eh bien on sait l'évolution de la vitesse. En effet, la vitesse au cours de la transformation, elle diminue, elle est maximum au départ, elle diminue et donc elle tend vers 0 quand t tend vers l'infini. On peut expliquer brièvement pourquoi. Eh bien, au cours de la transformation, les réactifs sont consommés et donc leur concentration dans le milieu diminue. On a vu dans le chapitre 1 que la concentration des réactifs était un facteur cinétique et que si la concentration des réactifs diminuait, ça avait pour effet de ralentir la transformation. Justement, parlons des facteurs influençant la vitesse. Eh bien, il y a la température. la vitesse volumique de réaction augmentera quand la température de milieu réactionnel augmentera. Et enfin, la concentration initiale des réactifs, la vitesse volumique de réaction augmente quand la concentration initiale des réactifs augmente. Une deuxième grandeur importante que nous allons définir, c'est le temps de demi-réaction. Alors définissons-le. Le temps de demi-réaction noté T1/2 correspond au temps nécessaire pour que l'avancement soit parvenu à la moitié de sa valeur finale. Si la transformation est totale, T1/2 correspond au temps nécessaire pour qu'il y ait disparition de la moitié de la quantité de matière du réactif limitant. Alors, lorsque T égale T1/2, X égale X max sur 2. On peut aussi définir T1/2 d'une autre manière. Si la transformation est totale, T1/2 correspond au temps nécessaire pour qu'il y ait disparition de la moitié de la quantité de matière du réactif limitant. Alors, lorsque T égale T1/2, X égale X max sur 2. Pour déterminer T1/2, on va une nouvelle fois utiliser une courbe, donc toujours la courbe X en fonction de T. Eh bien, il suffit de repérer le X max en ordonnée, de se placer à X max sur 2. On trace alors un segment horizontal en pointillé en direction de la courbe, on intercepte la courbe, puis on redescend avec un segment vertical en pointillé pour obtenir la valeur de T1/2. En abscisse, quel est l'intérêt de ce temps de demi-réaction? Eh bien, il va nous donner une indication sur la vitesse moyenne d'une transformation. Et ainsi, il va nous permettre de choisir la méthode à utiliser pour le suivi d'une certaine transformation. Si T1/2 est trop faible, donc si la vitesse est grande, il est impossible d'utiliser une technique de titrage, car l'exécution de cette technique nécessite une certaine durée. D'autre part, les appareils de mesure, pH-mètre, conductimètre, spectrophotomètre, possèdent un certain temps de réponse. Le résultat de la mesure n'est pas instantané. Il faut donc que les transformations ne soient pas trop rapides. On dit qu'une méthode de mesure est adaptée pour suivre une transformation si la durée de la mesure est au moins 10 fois inférieure au temps de demi-réaction de la transformation.